Nous continuons notre étude sur la voie de la sagesse, le livre des Proverbes. Et aujourd'hui, nous voulons discuter ensemble, à la lumière de la parole, un problème très moderne et très ancien. C'est le problème de la paresse. Je ne sais pas s'il y a un problème plus visiblement présent dans le monde moderne que la paresse. Nous vivons dans un état, dans une société de loisirs, de l'oisiveté, aussi dans une société qui dépend d'un état-providence et qui croit de plus en plus à un mythe qui dit qu'on peut avoir quelque chose pour rien, qu'on peut gagner son pain sans gagne-pain. Et ça devient une manière de penser. On cherche, on valorise la retraite. Les vacances, le week-end, et bien sûr, il y a une valeur dans le repos, bien sûr, mais on ne valorise plus pratiquement le travail. Aussi, dans le monde spirituel, dans le monde, dans la relation avec Dieu, cette attitude vient dans l'Église et nous affecte grandement. La paresse était, dans les siècles passés, un des sept péchés capitaux ou des sept péchés mortels. Et il y a même un auteur moderne qui dit ceci: il y a des fois où on est tenté de dire que ce péché grand, universel, croissant et léthargique de la paresse est le plus grand et le plus vieux des péchés et le parent de tout le reste. Donc, ça nous frappe aujourd'hui, quoi, la paresse, un péché, un grand péché, le parent de tout le reste, mais je crois que vous allez voir en examinant le livre de Proverbes avec moi qu'il y a sans doute une part de vérité dans cette manière de voir. Et vous allez comprendre que la léthargie amène une multitude de gens à l'enfer, peut-être plus que les péchés scandaleux, simplement la paresse. Je crois que vous verrez peut-être que la paresse chez les chrétiens amène plus de gens à une vie chrétienne médiocre que des péchés choquants. Et c'est pour cela que nous devons changer notre avis, changer notre manière de voir au sujet de la paresse et de l'industrie. L'industrie, je veux dire, l'éthique du travailleur, l'éthique d'être actif. Bien. Donc, pourquoi donc parler de la paresse? Je crois que je vous l'ai dit, mais on lira quand même le Proverbe 10:4 que vous avez au début de la feuille. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et donc, je voudrais commencer ce matin en vous disant que il y a quelque chose dans ta vie qui probablement va déterminer ton avenir plus que tes capacités, plus que ton intelligence ne détermine ton avenir, plus que tes dons ne déterminent ton avenir. Il y a quelque chose de plus qui va avoir un plus grand impact. Et c'est le fait que vous soyez paresseux ou travailleur. Il y a beaucoup de génies dans l'histoire dont on n'a jamais entendu parler. Parce que par la paresse, ils n'ont jamais fructifié leurs dons. Des livres magnifiques à moitié écrits, des œuvres musicales à moitié achevées, dont on ne sait rien, parce que certaines des personnes très douées dans l'histoire ont été aussi très paresseuses. Nous voulons maintenant discuter un peu les caractéristiques de la paresse ou du paresseux. Parce que vous savez, la paresse, nous avons tous ce problème, n'est-ce pas? Tous, nous devons lutter contre la paresse. Dans le monde terrestre, dans le monde spirituel. Nous sommes tous constamment tentés de ne pas être actifs, de ne pas être avides, de ne pas être zélés, de ne pas faire d'efforts. Mais succomber parfois à la paresse ne signifie pas que vous êtes un paresseux. Donc ça, c'est deux choses différentes. Et donc, si certains de ces versets ont un trait marqué, c'est parce qu'ils parlent de la personne qui est caractérisée par la paresse. Pierre, peut-être si tu vas dans une autre chaise, si tu t'avances, oui. Ouais. Donc, les caractéristiques du paresseux. Numéro 1. Le paresseux n'aime pas commencer une tâche. Alors réfléchissez, vous avez certainement connu des gens paresseux ou vous avez été paresseux, ou vous avez eu des enfants, et un enfant souvent est paresseux, au moins quand il arrive à l'adolescence, et doit être dirigé pour ne pas succomber à ce trait de caractère, n'est-ce pas? Et pensez à ça, et pensez à vous-même quand nous lisons ces versets. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Si tu es parent, tu as dû te dire ça quand même. Quand est-ce que tu vas te lever? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté s'abat sur la personne comme un voleur. Donc, le paresseux n'aime pas commencer une tâche. Quand tu lui poses ce genre de question, quand est-ce que tu vas te lever? Comme le verset dit, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand est-ce que tu vas commencer cette tâche? Il dira souvent quelque chose comme ceci: je m'en occupe. Ne t'en fais pas. Mais il faut pas poser des questions trop précises. Quand est-ce que tu vas commencer? Parce que des questions comme ça sont très embêtantes pour le paresseux. Dans sa tête, il le fera. Il va se lever. Plus tard. Mais le problème qui le traque et le tracasse, c'est qu'il n'aime pas commencer une tâche. Deuxièmement, il n'aime pas aller au bout d'une tâche. Nous lisons dans 12:27, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux, 19:24, le paresseux plonge sa main dans le plat. Et il ne la ramène pas à sa bouche. Nous avons des proverbes ridicules. Voilà cet homme qui a un bon plat, il a le plat, il a mis sa cuillère dedans, mais il ne goûte jamais cette bonne nourriture parce qu'il n'a pas le zèle, il n'a pas. Il ne veut pas s'efforcer assez pour ramener la cuillère à sa bouche. Et bien sûr, c'est de l'hyperbole. De même, cet homme a le gibier. Il a tué. C'est son gibier. Mais il ne le rôtit pas, parce que ça l'a déjà coûté trop d'efforts que de le tuer. Et donc, voilà des choses à moitié fait. Et à moitié fait veut dire que tu ne récoltes jamais le bien de la chose parce que tu n'aimes pas finir une tâche. Tu as bien commencé. Et ce qui est vraiment frustrant pour celui qui ou celle qui a affaire avec une personne paresseuse, c'est que tu lui dis, mais tu as presque fini ça. Tu as fait les 80% du travail. C'est un devoir qui est dû pour la semaine prochaine. Ton prof va t'attendre. Alors, mais finis les 20%. Ou je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Ces 80% d'efforts, c'était trop pour moi. Et donc, le paresseux n'aime pas aller jusqu'au bout d'un travail. Troisièmement, il n'aime pas faire face aux difficultés. Regardez bien, 24, 20, chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Pour une personne paresseuse, les difficultés ne représentent pas la même chose que pour des personnes actives. Pour une personne active, une difficulté est un défi à surmonter. Pour une personne paresseuse, une difficulté est un panneau qui dit sens interdit, ne va pas là. Véritablement, il fait froid, je ne peux pas aller travailler. C'est un signe providentiel qui me dit que je ne dois pas travailler. Presque, c'est comme ça. Non seulement il ne fait pas face aux difficultés, mais quatrièmement, il voit des difficultés partout, même là où elles n'existent pas. Regardez 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Ah, au moins, il y a quelque chose dans le paresseux qui travaille, son imagination. Il y a un lion dehors. Le proverbe nous enseigne d'une manière aussi un peu ironique qu'une personne paresseuse a ce trait, cette caractéristique, qu'elle voit des difficultés partout, même là où il n'y en a pas. Et combien de fois nous avons vu ça? Tu as une personne paresseuse dans ton équipe ou dans ton groupe de travail ou dans ton église et on suggère. Une entreprise, une tâche, un but, et la personne, tout de suite, a quatre raisons pour ne pas faire ça. Quatre raisons, quatre difficultés qu'il voit, et la moitié d'entre elles ne pourraient pas exister. Ce serait très étonnant que ces difficultés surgissent véritablement. Mais cette personne fait ça pourquoi? Parce que, sans le savoir, c'est une manière de justifier le fait de ne pas travailler, c'est-à-dire d'arriver à son vrai but, ne rien faire. Ensuite, cinquièmement, le paresseux est trop attaché au sommeil. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux, tu seras rassasié de pain. Mais remarquez bien, n'aime pas. N'ayez pas trop d'affection. Ensuite, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu du sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Dans ces versets, nous voyons que, et c'est une vérité absolue, c'est que la personne qui est devenue dans son caractère paresseuse, et c'est un péché particulier. Cette personne, très souvent, a un problème avec le sommeil, avec dormir. Cette personne a formé, s'est formée dans sa pensée et dans son corps pour se sentir comme s'il avait besoin de beaucoup de sommeil, beaucoup plus vraiment besoin. Et parfois, son corps a de plus en plus besoin du sommeil. Parce que par son inactivité, il est devenu de moins en moins apte physiquement. C'est un grand problème. Si vous voyez quelqu'un qui est dans une dépression de paresseux, parce que ça mène à la dépression souvent, ne rien faire, vous voyez que ces personnes sont souvent en train de dormir des heures pas possibles. Et on se demande comment une personne peut rester alitée autant. Mais ça, c'est le problème du paresseux. Et le problème, c'est que ce sommeil en plus n'est pas du repos. Ce n'est pas le vrai repos qui te prépare pour le travail. C'est une sorte de repos excessif qui t'enlève ta capacité de te lever et de travailler. Ensuite, nous voulons maintenant, après avoir vu que le paresseux peut se détecter parce qu'il n'aime pas commencer un travail, il n'aime pas finir un travail, il n'aime pas aller au bout, il n'aime pas faire face aux difficultés, il crée des difficultés qui n'existent pas et il a un problème avec le sommeil. Nous voulons voir les conséquences de la paresse et je vous avertis que je ne vais pas vous donner la solution pour la paresse aujourd'hui, ce sera la prochaine fois. Je parle uniquement du problème aujourd'hui. La solution à la paresse est très profonde. Parce que la paresse est d'abord un problème de cœur, de mentalité et d'attitude et de croyance. Et la solution à cela va jusqu'au fond de l'évangile. Jusqu'au fond de la grâce. De la grâce dans la vie de quelqu'un qui libère. Et qui est active. Mais ça, il faut qu'on attende pour la prochaine fois. D'accord? Nous voulons voir maintenant les conséquences de la paresse. Et la première conséquence, et vous allez dire tout de suite, cette personne qui n'a jamais eu un vrai travail, que je connais, qui a passé des années de sa vie adulte, qui était intelligent, qui était doué, et qui a accepté de ne pas avoir un vrai travail à long terme, cette personne était comme ça. Vous allez voir tous ces traits, ces conséquences. Au moins, certains d'autres demandent plus de temps pour arriver chez la vie de quelqu'un. L'insatisfaction. Donc, nous lisons dans chapitre 13, verset 4, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. » Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Et quelqu'un qui a des désirs, qui veut, qui désire, mais qui ne peut pas les satisfaire, il est dans quel état? L'insatisfaction. Souvent, il est inconscient qu'il est une personne qui vit constamment dans une permanence, dans un état permanent d'insatisfaction, de tristesse. Le paresseux, une demi-dépression, un manque de joie de vivre. À moins, attention, le paresseux, s'il a des loisirs, là, il peut être content. Mais s'il n'a pas de loisirs, de distraction constante, il est ennuyé, il est insatisfait. Les désirs, 21, 25 à 26, les désirs du paresseux le tuent. Le tuent d'insatisfaction parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. Mais le juste donne son parcimonie. Est-ce que vous avez remarqué le contraste? Il veut, il veut, il veut, il veut, mais le juste ne vit pas dans ce monde de vouloir recevoir, mais de vouloir donner. Le juste donne sans parcimonie. C'est une différence d'orientation spirituelle et mentale, n'est-ce pas? Si seulement j'avais... Et l'homme actif, qu'est-ce que je peux faire pour ces gens qui sont dans le besoin? Donc la paresse est une forme de repliement en soi aussi. Et nous allons voir ça peut-être un peu plus la prochaine fois. Mais qui dit paresseux, paresseux dit égoïste. Toujours. Être paresseux, c'est être égoïste. Je ne veux pas donner d'efforts, mais je veux recevoir et je pense tout le jour à mes désirs. La dernière chose que je dirais au sujet de l'insatisfaction, c'est que nous devons nous rappeler que même sur un plan psychologique et émotionnel un peu normal, le bien-être et le bonheur, la joie, sont toujours liés au travail. Lorsque j'arrive à faire quelque chose de bien, je suis content de moi-même. Et Dieu l'a fait ainsi. Et lorsqu'on ne fait rien, on ne peut pas être content avec soi-même. C'est impossible. Ensuite, nous arrivons à la deuxième conséquence qui est l'immobilisme. Nous lisons dans le 26-14, « La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. » Qu'est-ce que ça veut dire ce proverbe? Toute la journée, la porte tourne sur ses gonds. Mais si vous revenez dans un jour ou dans 10 années, vous allez voir que la porte est au même endroit. Ça n'a pas bougé. Ça a tourné, mais sans avancer. Et ça veut dire qu'il y a un immobilisme dans la vie d'un homme ou d'une femme paresseux, de sorte que cette personne, quand tu le vois 10 ans plus tard, il est exactement au même endroit. Vocationnellement, professionnellement, intellectuellement, il n'a pas bougé. Il ne va nulle part, le paresseux. Troisième conséquence, c'est que c'est encore pire que ça. C'est pas simplement qu'il ne va pas en avant, mais il régresse. Une vie en régression. Nous lisons dans 24-30 et suivant, « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains, etc. Qu'est-ce que ce proverbe nous enseigne? Nous avons ici un homme qui avait quand même quelque chose. Il avait des biens, il avait un champ, donc il avait un gagne-pain potentiel, il avait une maison, il avait un mur, et même ce qu'il avait, il a perdu. C'est pas simplement qu'il n'a pas avancé pour obtenir encore plus de choses, mais même ce qu'il avait a été ruiné, dilapidé, perdu par sa part. Qu'est-ce que vous aviez spirituellement que vous avez perdu? Ah, parfois nous perdons tous par paresse. Quatrièmement, l'assoupissement. Nous lisons dans 19-15, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante, remarquez bien les termes, éprouve la faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne paresseuse, après un temps, devient insensible. Il se rend plus compte des opportunités qu'il est en train de rater dans la vie. Il n'est pas alerte au mal qu'il est en train de se faire. Il est dans un assoupissement, il vit au jour le jour. Et il ne regarde pas plus loin, il ne constate pas les conséquences. Il ne voit pas qu'il pourrait en sortir. Il est dans un assoupissement terrible. Et c'est vraiment triste de voir quelqu'un qui est dans cet état, et on sait que si seulement il avait une prise de conscience, si seulement il réalisait pour 5 secondes ce qu'il était en train de rater et ce qu'il pourrait faire, il bondirait de son lit et il dirait « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais une partie de la paresse, c'est l'assoupissement. Cinquièmement, une vie de problèmes et complications croissants. 15-19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Vous voyez, c'est une image de deux hommes. Un homme a un chemin aplani. Il n'y a pas beaucoup d'obstacles pour lui, de difficultés sur son chemin. Et l'autre, c'est comme si son chemin, c'est de traverser donc une haie d'épines. Un chemin, une voie dans la vie qui est remplie de complications. Et quand vous voyez la vie d'une personne paresseuse, vous voyez qu'il y a des travaux à moitié achevés, des promesses brisées, des personnes frustrées avec lui, des jobs perdus, des dettes accumulant, et sa vie se remplit de plus en plus en cours de chemin de problèmes et de complications. Maintenant, pour en sortir de là, ça ne va pas être facile. Malheureusement, ça mène certaines personnes paresseuses à essayer des mauvaises solutions. Et il y en a deux dans les proverbes. Première solution, raccourci. Si j'ai besoin d'argent pour vivre et je ne veux pas obtenir l'argent par le travail, le moyen normal, raccourci. Il y a toujours des loteries, n'est-ce pas? Et nous lisons, ça c'est la première solution mauvaise. La deuxième, c'est la malhonnêteté. Si je ne peux pas travailler et gagner mon pain honnêtement, je le ferai malhonnêtement. Et nous voyons les deux. D'abord, 21, 5 et 6, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation, voilà, il veut de l'argent vite, un raccourci, n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Et encore, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Et nous voyons dans notre société que beaucoup de gens veulent avoir des biens, de l'argent, mais comme ils ne veulent pas les avoir par le travail, ils empruntent beaucoup de chemins tordus. Et ils mettent beaucoup d'espoir dans des jeux de chance, dans des manières malhonnêtes, et cela est parfois lié simplement à la paresse, c'est-à-dire je le veux, mais je ne veux pas travailler pour l'avoir. Ensuite, sixièmement, la désaffection et le mépris des autres. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. 10, 26. Le vinaigre aux dents et la fumée aux yeux. C'est très parlant. C'est terrible. Tu as envie de fuir. Tu as envie de fermer les yeux. Aïe, aïe. Tel est le paresseux pour son employeur qui l'envoie. Donc, à force de paresse, certaines personnes deviennent méprisables pour les autres, perdent leur affection qu'ils avaient à un moment donné, sont méprisés non seulement par leur employeur, mais par leur famille. Leur famille devient frustrée avec eux à cause de la paresse. Ensuite, septièmement, la dépendance. Proverbe 12, 24 nous dit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Voilà un jeune homme qui avait les talents et les capacités pour se former, pour avoir un beau métier, ou même commencer lui-même une entreprise, se mettre à son compte. Mais Il a un job très très banal où donc il est sous la coupe des patrons et il travaille. Oui, il est tributaire. Il est tributaire et il est dépendant des autres. Et simplement, c'est sa paresse qui l'a amené dans cette situation. Ensuite, la pauvreté, si la paresse continue longtemps, 6.11 nous dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Ensuite, la destruction se met autour de vous. Maintenant, un proverbe étonnant. Celui 18.9 qui nous dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Les paresseux ne réalisent pas que la paresse est violente, est une forme de violence. La personne qui est trop paresseuse pour garder sa voiture dans une bonne condition sécurisée est une personne qui tue des autres. Une personne qui est trop paresseuse pour ranger son outil tranchant dans son endroit est une personne qui porte atteinte à la vie d'autrui. Et est-ce que vous voulez que l'homme qui travaille dans l'usine qui fabrique les pièces détachées pour les avions dans lesquels vous allez voler, que ce soit un feignant qui ne fait pas bien son travail, qui ne fait pas attention, qui n'a pas de fierté dans ce qu'il fait? Oh là là! Qu'il n'en soit pas ainsi, parce que l'homme paresseux est un frère à celui qui détruit. Les paresseux détruisent des familles, ravagent des familles, des femmes et des enfants qui sont dans la pauvreté, dans la disette. Oui, le paresseux est un destructeur. Les deux dernières choses, et on finit. Si la paresse va assez loin, ça devient ce qu'on appelait autrefois l'assidie ou l'assidia. L'assidia, c'est un mot latin qui parle de cet esprit de quelqu'un qui est devenu complètement paresseux mentalement, c'est-à-dire indifférent à tout. Ça veut dire que donc il ne croit rien, il ne se soucie de rien, il ne veut rien. Il ne cherche à rien connaître, il n'interfère avec rien, il ne se réjouit de rien, il n'affectionne rien, il ne déteste rien et il ne trouve pas de but en rien. Voilà des personnes qui deviennent comme ça, des indifférents. On appelle ça dans notre société moderne parfois la tolérance. Donc, c'est parfois une maladie. Une personne qui ne déteste rien et qui n'aime rien. Qui ne veut A ni B. Qui est complètement dégagé, débranché et la plupart du temps déprimé. On traite ça avec des drogues la plupart de fois, mais parfois, je ne dis pas toutes les fois, mais parfois et même souvent, c'est simplement l'acidia. C'est le fait que quelqu'un a vécu sans travail, sans but, sans activité, sans faire des choses qui donnent une raison d'être tellement longtemps que cette personne s'est assise dans une indifférence et une paresse mentale totale. Milly était une telle personne. Elle se disait chrétienne, et je vous lis une vraie histoire. Elle avait été hospitalisée dans des institutions pour malades mentales pendant 13 ans, parfois dans l'hôpital, parfois sortie pendant 13 ans. Personne ne semblait pouvoir l'aider. La plupart du temps, elle était couchée à la maison, incapable de faire ses tâches à la maison. Elle ne prenait pas soin vraiment de ses enfants. Son mari était dans le désespoir complet et Émilie elle-même était complètement déprimée. Ses amis l'ont amenée à un conseiller chrétien dans un autre état, loin de là où elle habitait. La première visite de Émilie chez ce conseiller a produit un changement absolument époustouflant dans sa vie. Ce conseiller l'a confronté tout simplement et très fortement le premier jour avec son comportement paresseux, indiscipliné et irresponsable. Et le conseiller lui a dit de revenir à l'église, de commencer à travailler à la maison, de repasser les vêtements, de nettoyer et de prendre soin de sa famille. Tout le monde était choqué que ce soit son conseil à cette dame, tout le monde sauf Milly, qui a répondu en prenant de l'espoir pour la première fois. Son mari était abasourdi parce que Milly avait été dorlotée par un psychiatre non chrétien pendant près d'une année. Ce psychiatre l'écoutait avec sympathisait, compatissait avec sa dépression, lui a mis sur des tranquilliseurs, des médicaments, et il n'y avait aucune amélioration. Mais après la première semaine de conseil avec ce conseiller chrétien, Milly a arrêté le traitement, elle a nettoyé sa maison de fond en comble, et quand elle est retournée chez lui, la semaine d'après, c'est elle qui conduisait la voiture elle-même, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, et elle était une femme nouvelle. Elle avait été à l'église pour la première fois depuis des années, à l'étonnement général de son pasteur et de son assemblée, et en quelques semaines seulement, le conseiller, a arrêté ses séances parce que Milly n'en avait plus besoin. Je finis en disant juste un mot sur le plan spirituel, paresse spirituelle. Paul dit dans les Romains, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. J'ai vu dans mes années de pasteur qu'il y a parfois des gens dans l'Église qui ont une forme de paresse un peu bizarre. Voilà un homme qui travaille dur à son boulot, 50 heures par semaine, même plus, qui travaille dur à la maison, sa pelouse est impeccable, qui se donne même à un sport, mais quand il s'agit de faire une chose pour l'Église ou pour le Seigneur, ah, oh, vous savez, je suis bien fatigué. Peut-être cette paresse vient du surménage, tout ce qu'il fait d'autre. Mais parfois, la personne a des heures raisonnables au travail et ne travaille pas excessivement à la maison. Mais pour l'Église, ouvrir sa Bible, c'est un exploit majeur. Parce que quand il pense à prier et à ouvrir la Bible, il a soudainement une léthargie, un sentiment de fatigue. Ah, oh, je ne peux pas aujourd'hui, qui vient sur lui. Voilà un état spirituel de paresse perfide et complètement désolante et destructrice. Et des personnes qui tombent dans ce péché, sont dévastés. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et vous vous rappelez bien comme moi que Laodicée est l'église qui reçoit le reproche le plus grand du Seigneur. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Extrême d'une manière ou d'une autre. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà un homme qui était pas un méchant. Il n'a jamais fait du mal à personne, il n'était pas voleur, il ne s'occupait pas des affaires des autres, parce qu'il ne s'occupait même pas de ses propres affaires. Il n'avait pas assez d'intérêt ou d'énergie de se mêler avec la vie d'un autre, ou bien de penser vraiment à sa vie. Il adorait son aise. Il faisait un culte à son propre confort et son repos. C'était sa seule faute. À part ça, il était tout gentil. Il avait toujours eu l'intention vraiment de vivre une vie comme il fallait. Il n'allait pas dormir pour toujours. Un de ces jours, il avait l'intention d'être déterminé, résolu, actif, engagé. Tout à fait, il avait l'intention. Il allait le faire. Seulement, pas maintenant. Le temps pour faire ça était toujours dans l'avenir. Le temps pour faire ça dans sa vie spirituelle, malheureusement, était toujours dans l'avenir. Un jour, je vais devenir un homme de prière. Un jour, je vais adopter une habitude ferme de lire la Bible tous les jours et d'y méditer réellement. Il avait l'intention de croire et de vivre une vraie vie de disciple un jour, mais il est mort, inactif spirituellement et incroyant. Il avait l'intention de devenir un vrai chrétien, mais il est mort en dehors de Christ. La paresse mène des multitudes dans le pays de bonnes intentions pour ne jamais bouger de là. Que le Seigneur nous en délivre. Nous allons chanter ensemble un chant qui nous exhorte dans le bon sens. C'est le numéro 304, 304, veille et prie.